gracieusement et généreusement traduit par Robert Geoffroy, www.geoffroyrobert.com. Comme vous le savez, être présent aide à ressentir tout le champ d'énergie du corps. Vous occupez le moment présent en occupant le corps ou en l'habitant. La présence est donc un phénomène de globalité qui va plus profondément que le corps physique. Il y a une présence animée que vous pouvez sentir qui pénètre tout le champ d'énergie. Et il reste suffisamment de conscience pour être conscient de son environnement, pour regarder et écouter, tandis qu'on demeure enraciné dans cette présence spacieuse, dans l'être, pourrait-on dire, enraciné dans l'être. Le faire est alors moins problématique et ne vous extrait pas complètement de vous-même quand vous commencez à faire. Et bien sûr, penser est déjà une forme de faire. Et c'est le point critique pour beaucoup de gens qui sont déjà capable d'être présent dans un environnement protégé, comme ici, ou à la maison, dans votre pièce. Un environnement protégé est comme une serre pour la présence, là où vous faites pousser des plantes de sorte qu'elles ne soient pas exposées aux éléments qui les feraient mourir rapidement. En l'occurrence, les éléments sont bien sûr les défis de la vie quotidienne. Et en gardant cette métaphore, si le terme convient, mourir rapidement signifie ici que la présence est perdue rapidement, sans même qu'il y ait un défi dès qu'on se met à penser ou à parler avec les gens, à discuter de quelque chose. Toute l'attention se dirige immédiatement dans la tête, dans les pensées, et vous n'occupez plus alors le corps. Mais vous êtes occupé par vos pensées. Posséder est un autre mot pour occuper. Et chaque pensée est qui vous croyez être. Vous êtes identifié à une pensée, vous êtes gouverné par le scénario dans votre tête, et cela devient le moi. C'est un état quasi permanent de malaise, d'angoisse, d'inquiétude, de soucis, de lourdeur et de frustration qui en résultent. Parce que la plupart des choses ne seraient pas censées se produire, au moins pas de la façon dont elles se produisent, d'une autre façon peut-être. Et la plupart des choses en cachent d'autres qui s'y rattachent. Je veux dire que si vous accomplissez quelque chose à propos de quoi le mental pense que cela vous rendra heureux, il y a toujours quelque chose qui se surimpose et qui n'était pas prévu. Il y a un inconvénient avec l'avantage apparent. Donc, au lieu d'être possédé ou occupé par votre mental, vous occupez le corps. Et si vous le voulez, vous pouvez alors sortir et occuper Wall Street. Mais si vous allez occuper Wall Street, une autre ville ou une autre rue, sans occuper le corps, ce qui veut dire sans être présent, vous ne faites alors pas partie de la solution, mais vous faites partie du problème. C'est ce qui s'est passé de nombreuses fois dans l'histoire avec des révolutionnaires ou peu importe qui d'autre. Ils avaient des intentions magnifiques et ils finissaient par faire partie du problème, en particulier quand ils réussissaient. Vous pouvez donc vous sentir vivant. Vous n'avez pas besoin de stimulants mentaux ou émotionnels pour vous sentir vivant. Si vous ne pouvez pas sentir cette vie intrinsèque qui vous habite, vous voulez à tout prix un stimulant pour vous aider à vous sentir vivant. Dans le passé, cela aurait été problématique, mais dans notre civilisation actuelle, il y a toute une industrie destinée à produire des stimulants pour le mental. Ils sont complètement inutiles sans contenu significatif véritable. Toute la raison d'être de cette industrie consiste à produire des stimulants pour le mental, comme les disques, comme les présentateurs en radio qui parlent entre les chansons d'un ton excité. Quand vous allez à l'étranger, vous êtes dans un taxi où la radio est allumée, vous ne comprenez pas la langue et vous entendez quelque chose d'incroyablement important a dû se produire. En fait, si vous compreniez la langue, vous sauriez que ce qui est dit est totalement insignifiant. Il y a derrière une ardeur prodigieuse, mais dépourvue de tout contenu. Rien d'essentiel n'est dit. Il s'agit seulement de provoquer une stimulation et des émotions très fugaces, parfois de la colère. Certaines chaînes de télévision ou stations de radio ont pour vocation d'inciter à l'indignation morale ou à la colère. Des personnes se spécialisent en la matière et elles sont au fond toujours en colère contre quelque chose. Et les gens aiment écouter ça parce qu'ils peuvent se sentir également en colère et se donner un sentiment de vie compensateur. Et puis, cela passe et il vous faut quelque chose d'autre. Bien sûr, les stimulants ne manquent pas. Ensuite, Vous pouvez faire vos commentaires en de nombreux endroits sur le web. Vous pouvez y exprimer ce que vous pensez. Ce qui est merveilleux, c'est que vous n'avez plus besoin de cela quand vous pouvez sentir que vous êtes vivant sans passer par la stimulation des pensées, des émotions, de ce qui se passe, d'un truc extérieur, artificiel, ou de quelque chose à ingérer pour vous sentir vivant. De la nourriture, de la drogue, de la boisson, ou du sexe, ou toute l'excitation qui vient en débutant une liaison. C'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Et bien sûr, ça ne dure pas très longtemps parce que le début d'une liaison n'est que le début. Le mental problématique se met en marche ensuite. Il y a un philosophe français qui dit, je ne me rappelle pas lequel, peut-être Pascal, tous les problèmes de l'humanité sont dus à l'incapacité des gens à rester assis tranquillement dans une pièce. La capacité de rester assis tranquillement dans une pièce implique, ça semble très superficiel, pour être capable de rester tranquillement assis dans une pièce, vous avez besoin d'être connecté à ce sentiment de vie plus profond en vous. Si vous n'êtes pas connecté à cela, vous ne pouvez pas rester assis tranquillement dans une pièce. Soit vous vous endormez, soit vous vous agitez beaucoup et vous inquiétez. Il ne se passe rien. Je ne me sens plus vivant. Et dans une relation, sans ce sentiment de vie, d'être, vous avez besoin du drame. Sans le drame, la relation ne semble plus vivante parce que vous ne vous sentez pas vivant sans le drame. Cela peut ne pas être agréable, mais il se passe au moins quelque chose. Donc, s'agissant d'être enraciné dans l'être, la chose la plus importante est de ne pas perdre cette capacité quand vous passez à l'action, au faire. C'est un art. Vous pouvez le pratiquer en regardant la télévision et en ressentant en même temps le corps subtil. Regardez des programmes de discussion à la télévision, regardez les informations et ressentez-le. Écoutez les autres humains à partir de cet endroit intérieur de connexion. Vous n'avez pas besoin de penser, excepté quand c'est nécessaire. Et quand elles viennent de cet endroit plus profond, ce sont des pensées inspirées, fraîches, vivantes, nouvelles. Maintenant que nous sommes tous présents, enracinés dans l'être, je peux poursuivre et commencer à parler de l'invité du jour. Mais auparavant, j'aimerais vous lire deux petits extraits de ce livre. Je vous dirai ce que c'est dans une minute. Voici un passage très court décrivant quelqu'un qui s'extrait de l'identification avec le flot des pensées et de la tendance à se fabriquer des problèmes en pleine nuit, qui s'en extrait juste pour un moment très court et en faveur d'un niveau de conscience totalement différent, en faveur de la présence. C'est l'évocation de cette expérience très brève. C'était comme ces fois où je ne peux pas dormir et où je me débats dans mon lit, ayant chaud, en sueur et enroulé dans un nœud d'activité mentale fébrile. Une pensée arrive comme une prière. Va dehors, passe la porte d'entrée et regarde le ciel. Juste une minute, écoute la nuit. Si je peux me réveiller de la transe hypnotique de ce qui est faux, j'enfile un pull, vais à la porte à pas feutrés et entre sous la voûte nocturne. Fraîcheur, silence, un million de points brillants. Le cœur bat une fois, deux fois, trois fois. Le mental perd sa frénésie, se fond dans l'étendue. Aveuglé par un monde qui ne comporte aucune ressemblance avec celui d'il y a 10 minutes et que je construis perpétuellement dans ma tête, je retourne discrètement à la maison comme si j'étais moi aussi une pointe d'épingle brillante de la dimension infinie, empruntant un couloir étrange, disparaissant avec chaque pas jusqu'à ce que je me rendorme. Et un petit passage concernant l'abandon, et ce qui se passe quand vous vous abandonnez. De cela, je suis certaine. Quelque chose se produit à chaque fois que j'arrête de me battre contre le cours des choses. Quelque chose arrive à chacun de mes étudiants quand ils arrêtent de poursuivre leur programme familier concernant la peur, l'insuffisance et le vide. Je ne sais pas comment appeler cette tournure des événements ni la fraîcheur qui en résulte, mais je sais ce que c'est. C'est du soulagement. C'est de la bonté infinie. C'est une distillation de doux parfums, de beauté à vous couper le souffle, de mélodies obsédantes jamais entendues. C'est l'essence de la tendresse, de la compassion, de la joie, de la paix. C'est l'amour même. Et dès lors que vous ressentez cela, vous reconnaissez que vous êtes cela et que vous avez toujours été ici depuis le début en attendant votre retour, à attendre votre retour. Après avoir oublié ce que vous faites toujours, vous comprenez tout à coup que la bonté envers tout être, une plante, un animal, un étranger, un partenaire, vous rapproche de cela. Prendre soin de votre corps, c'est prendre soin de cela. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de cela. et que vous vous détourniez de toute chose ou de quiconque qui vous demande de laisser cela parce que c'est ce que vous vouliez, c'est ce dont vous rêviez, c'est ce que vous avez aimé pendant des éternités. Vous savez sans savoir comment vous savez que chacune de vos étapes jamais franchies, chacune des personnes que vous avez jamais aimées, chaque tâche jamais accomplie, c'était cela. Rencontrant cela vous-même, retournant à vous-même, et que l'enfer n'est rien d'autre que de quitter cela. Le paradis est déjà là, sur terre. Le livre que je viens de citer est Les femmes, la nourriture et Dieu, numéro 1 sur la liste des best-sellers du New York Times. L'auteur est notre invité du jour, Jeanine Roth. Donc, Jeanine, s'il te plaît, rejoins-moi. C'était vraiment merveilleux d'écouter ces deux courts extraits. Mon seul regret, c'est que les hommes ne lisent pas ce livre. Donc je le recommande hautement aux hommes également. Oh, et j'ai un autre regret. Les femmes qui n'ont pas de problème avec la nourriture pourraient ne pas le lire. Elles aussi devraient le lire. Ce qui est intéressant dans ce livre, le point d'entrée dans la dimension spirituelle, pour beaucoup de gens dans leur vie, est ce problème qui est une dépendance ou un comportement compulsionnel. Ici, c'est manger la nourriture. Et tu apportes une réponse à cela ici, qui est très différente de ce à quoi l'on s'attend ordinairement quand il s'agit de perdre du poids. La réponse, bien sûr, est la conscience. Un comportement compulsionnel ne peut pas exister longtemps en présence de la conscience. Ce serait ma façon de le formuler. Tu peux peut-être parler un peu de cette connexion. Tu as bien sûr beaucoup d'expérience dans ta propre vie. Tu as connu la compulsion aussi pour la nourriture. Mais j'en dis trop. Je te laisse parler un peu. Non, je ne pense pas que tu en dises trop. J'adore t'écouter. Dans ma propre vie, j'ai été prise de frénésie, et je dirais plutôt démente. Et c'est comme si j'avais été démente à propos de mes mensurations et de ma relation avec la nourriture, parce que je reprenais et reperdais environ 5 kilos par semaine pendant environ 17 ans. Et j'ai arrêté parce que la souffrance était si intense que je ne voulais plus vivre de cette façon. Et comme je l'indique dans le livre, ce n'est pas le cas pour tout le monde qu'une souffrance intense mène à des ouvertures intenses. Mais c'est souvent le cas. Oui, la souffrance semble être la porte. Je me rappelle l'avoir lu dans Le pouvoir du moment présent. Oui, et souvent, le pire problème est la plus grande ouverture. Ce qui semble être le plus grand obstacle peut devenir la plus grande ouverture, oui. Et je pense que c'est en réalité l'essence de ce qu'a été mon expérience directe, la chose dont je voulais me débarrasser le plus, parce que j'ai pensé très longtemps, oh, si seulement je pouvais réaliser un seul vœu, et ce n'était pas pour la paix dans le monde, et ce n'était pas, vous voyez, pour le réapprovisionnement de la terre, c'était simplement fait que je me réveille saine d'esprit demain. C'était ça. Pas vraiment un vœu magnanime, mais néanmoins, c'était, vous voyez, juste frotter la lampe du génie, et voilà. Parce que je croyais que là était la cause de ma souffrance. Et si seulement je n'avais pas ça, je serais heureuse. Oui. Et alors, la réalisation que ce n'est pas le cas, s'est-elle faite une fois pour toutes ou plutôt par étapes? Est-ce qu'il y a eu une réalisation ou plusieurs petites réalisations? J'aime bien que tu me demandes cela parce que j'ai envie également de te poser une question similaire. Mais je vais d'abord répondre. Pour moi, dans ma vie personnelle, ce fut cette dernière ouverture la plus grande. Parce que j'avais déjà projeté quand et comment j'allais me suicider. Et j'avais aussi travaillé quelques années auparavant comme conseillère pour la prévention des crises suicidaires. J'étais donc vraiment au courant. Vous savez, quand vous en êtes à avoir un moyen, une occasion, c'est devenu vraiment sérieux. Oui, bien sûr, cela aurait été un coup terrible pour les gens que tu conseillais concernant le suicide. En apprenant que leur conseillère s'était suicidée, ce serait comme apprendre que mon psychiatre vient d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Oui, ça aurait été pareil. Je sens un peu ça quand je suis quelque part au restaurant où il y a quelqu'un qui a lu mon livre, tout le monde regarde ce que je mange. Voyons un peu, va-t-elle manger trop? Est-ce qu'elle s'empiffre? Est-ce qu'elle mange en se relevant sans cesse? Donc c'est comme ça. Il me regarde aussi. Pourquoi boit-il du café? Pourquoi est-ce que tu vas au café parfois? Je ne bois qu'une ou deux tasses par jour, mais oui. À cause de l'idée de ce qui est censé être. Oui. Oui, je sais, quand je recommande aux gens d'apprécier la nourriture, c'est surprenant. Quand je révèle que j'aime le chocolat, bref, revenons à ta question et à ma question également. Je pense que j'ai perdu du poids si souvent, parce qu'il y a eu un temps, la plupart du temps, j'avais de l'embonpoint ces années-là, mais il y a eu un temps où j'étais anorexique et je pesais 37 kilos. Il est dit quelque part que tu as perdu et repris près de 500 kilos. Je ne veux pas dire en une fois. Oui, mais tu sais, ce n'est pas vraiment quelque chose d'extraordinaire pour les gens qui sont des mangeurs compulsifs. Et j'avais remarqué, même si j'étais anorexique, quand je me regardais dans la glace, je voyais de la graisse. Vous savez, je dis souvent que quand vous regardez le monde avec des lentilles abîmées, le monde a l'air abîmé. Oui, je l'ai également mentionné à propos de l'anorexie. Je pense que c'est dans Nouvelle Terre. Au lieu de voir votre corps, vous voyez l'image de votre corps que vous avez dans votre mental. Et le problème, en fait, à nouveau, c'est d'être pris dans votre mental. Oui, ce mental en manque, comme il m'arrive de l'appeler. Donc, après ces quelques jours avant mon suicide que je préparais, quand cela s'est arrêté, quand l'ouverture s'est produite, je ne suis jamais revenu en arrière. Ce fut une vision permanente. Je vais nuancer cela dans une minute. Je n'ai plus jamais fait de régime. Je n'ai jamais commis d'excès, bien que ce que je considère maintenant comme étant un excès, c'est manger quand je n'ai pas faim et ne pas véritablement écouter ce dont mon corps a envie. Il y a eu des occasions de manger plus que ce dont mon corps voulait dans l'instant. Mais je n'en suis jamais revenu à croire que je serais heureuse pour toujours si je perdais du poids, ce qui veut dire à ce moment-là que j'arrête de lutter et j'arrête de vouloir être différente de ce que je suis. J'ai compris qu'au lieu de croire que j'étais insensé et démente et que la dépendance à la nourriture était ce qui n'allait pas chez moi, cette dépendance était peut-être bien pour moi. En fait, je pouvais écouter ce qu'elle essayait de me dire et d'une certaine manière l'accueillir au lieu de lutter contre elle. Et je sais que tu en parles, arrêter de résister, de se battre et de vouloir se débarrasser de quelque chose. L'espace s'ouvre. Oui, oui. Donc cela est devenu l'ouverture pour toi et c'est un bon exemple. L'obstacle devient l'ouverture. L'obstacle devient l'ouverture. C'est juste ou ce que je dis beaucoup, ce que vous croyez, parfois c'est le pire à votre sujet, est en réalité l'accès à une joie inattendue et une joie immense. La plupart des gens n'y croient pas, en particulier concernant la nourriture, parce que leurs corps sont vraiment leur fardeau. Ils me disent souvent, mais Jeanine, regarde-moi, je ne peux pas monter les escaliers, ou je manque de souffle, ou je suis sûre, si je perds ces 15 kilos, je serai la seule dans le monde entier, mais je serai la seule dans le monde pour qui la vie serait différente. Vous savez, je leur dis, j'ai reçu une fois une lettre de quelqu'un de Weight Watchers avec un ruban sur lequel était écrit « J'ai perdu 5 kilos » et elle a rajouté en bas de celui-ci « Et j'ai toujours l'impression d'être une merde ». Et c'est juste, la perte de poids ne règle pas ça. Oui. Oui, et bien sûr, cela s'applique à presque tout ce que vous vous dites, ce qui résout vos problèmes, élimine aussi votre tristesse ou vous rend heureux. Et en obtenant ce que vous vouliez, vous voyez que cela ne fait pas ce que c'était supposé faire. Quelqu'un a dit, je ne me rappelle pas qui, il y a deux façons d'être malheureux. L'une est de ne pas obtenir ce qu'on veut et l'autre est d'obtenir ce qu'on veut. Et bien sûr, ça reste vrai tant que vous ne pouvez pas vivre dans l'acceptation, dans l'unité, dans l'alignement sur ce qui est, dans l'abandon à cet instant tel qu'il est. Alors cela s'applique. Quoi que vous obteniez, cela ne vous rendra pas heureux. Et j'ai l'impression d'avoir essayé de toutes mes forces dans ce sens. Je l'appelle maintenant « Si seulement j'avais, remplissez le blanc, je serais heureuse, état d'être. » Et vous pouvez y mettre ce que vous voulez, si seulement j'avais le corps, la relation, l'argent, le travail, la maison, la réussite, l'accomplissement, peu importe. Oui, et pour beaucoup de gens, leur sentiment d'identité est étroitement relié à ce qu'ils considèrent comme étant leur problème, à savoir les choses qui manquent dans ma vie ou les choses dans ma vie dont je dois me débarrasser. C'est l'un ou l'autre. Et ce sont les problèmes, les choses que je dois attirer pour être satisfait et heureux ou les choses dont je dois me débarrasser pour être satisfait et heureux. Et se déplacer dans ce monde de problèmes fabriqués par le mental devient pour beaucoup de gens le point de concentration pour leur identité personnelle, moi et mes problèmes, comme je l'appelle parfois. Et les gens se considèrent comme étant un problème qui doit être résolu. Tu le mentionnes dans le livre, considérer sa propre vie comme si elle était un problème qui requiert une solution. C'est un état de conscience étonnant. Quand vous pouvez voir cela, cette vision est peut-être déjà un commencement. Wow, c'est ce que j'ai fait de ma vie. Cette vision est déjà un début, la conscience qui émerge. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour moi, ce qui s'est passé avec la nourriture, c'est que j'ai vraiment arrêté de faire régime. Et j'ai mis fin à ce que j'appelle la guerre en moi. J'ai arrêté d'essayer de m'améliorer. Et j'ai vraiment commencé à me comprendre moi-même. Cela voulait dire, cependant, et c'est une partie de ma question, cela voulait dire avoir une relation différente, me mettre en contact avec mes sentiments, au lieu d'être, d'en être issu, au lieu d'exister en tant que. Cela signifiait aussi une sorte de questionnement concernant les nombreux schémas que j'avais développés dans ma vie. J'étais très identifié avec mon passé, avec des abus, parce que j'avais subi beaucoup de maltraitance et d'abus sexuels. Il y avait un corps de souffrance si fort, comme tu l'appellerais, qu'il fut très difficile de s'en dégager. Ça n'a pas été difficile avec la nourriture pour une raison ou une autre. Ça n'a pas été difficile, mais j'ai vraiment dû continuer d'y revenir de nombreuses années. Et je le fais encore à un moindre degré quand je ressens que quelque chose prend beaucoup d'espace, où je retrouve, tu sais, j'appelle ça la loyauté fondamentale envers la souffrance. Je sais qui je suis parce que je souffre. Je sais qui je suis où j'ai un ami qui dit, il se réveille et dit, il y a quelque chose qui ne va pas, qui doit être accusé. J'ai l'impression que je peux me réveiller un peu comme ça aussi. Quelque chose ne va pas, qui doit être accusé? Est-ce moi ou est-ce quelqu'un d'autre? Mais quelqu'un doit être blâmé. Et cela est un aimant qui attire encore de la négativité et de la souffrance. Et pour moi, il y avait des moments, et c'est ma question, je tourne autour, il y avait des moments où cela ne suffisait pas de simplement y mettre l'étiquette passé ou douleur, j'avais l'impression qu'il me fallait me poser des questions à ce sujet. Ainsi, c'est devenu de plus en plus léger et j'ai commencé à comprendre « Oh, c'est quelque chose qui m'est arrivé. » Et soit la colère, soit la tristesse, soit la solitude, ou soit l'ennui, n'est pas ce que je pensais que c'était. J'ai vu que c'était ça. Ce n'est pas l'histoire que je me raconte à ce sujet. L'expérience directe ressentie de la tristesse que je ressens toujours. Je peux la supporter maintenant. Comment c'est quand je la sens dans mon corps? Donc, je me demandais à ce sujet, pour toi, et quand... quant à ce que tu dis concernant le fait de reconnaître le moment où tu es complètement pris dans le mental et tu reconnais ensuite ce qui n'est pas pris dans le mental. Il semble que pour toi, cet éveil s'est produit, ce grand éveil, quand tu parles de s'éveiller, le lendemain matin. J'ai lu ce chapitre de nombreuses fois, je pense que c'est dans l'introduction du livre « Le pouvoir du moment présent ». Et c'était une expérience différente d'être présent, et il ne semble pas que tu aies eu besoin d'y revenir pour explorer quoi que ce soit, ce qui t'avait mené à la douleur dont tu as parlé. Non, c'est vrai, il y a eu une désidentification du mental, de la pensée, également du champ émotionnel. Pas de répression, ni rien de ce genre, mais simplement un large espace autour. Néanmoins, l'intégration de l'état de présence jusqu'à ce que cela influence vraiment tout ce qu'on fait dans la vie a pris du temps, sans même parler de la compréhension de la chose. Je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé. J'ai simplement réalisé que j'étais en paix. Je ne savais pas du tout pourquoi. Je n'aurais pas pu l'expliquer. Cela m'a pris plusieurs années pour vraiment comprendre cette désidentification du mental. Je ne savais pas que cela s'était produit à ce point. Je ressentais simplement une paix profonde et je ne savais pas pourquoi. Cela n'a pas changé tout de suite tout ce que je faisais dans ma vie. J'ai continué. C'était comme si l'ancien petit soi en particulier avec les actions extérieures, il y avait encore une certaine dynamique. J'ai donc continué de faire ce que je faisais. J'étais toujours dans le milieu universitaire. J'ai donc continué ça. J'ai commencé à travailler un doctorat sans savoir que mon but dans la vie ne se situait plus du tout là. Mais l'ancien mouvement avait toujours sa dynamique jusqu'à ce qu'elle s'épuise finalement. Et j'en suis ensuite arrivé au point où j'ai senti qu'il y avait une divergence entre ce que je faisais et ma conscience, qui je suis. Et cela m'avait fait quitter le milieu où je me trouvais, tout le monde universitaire, pour être sans rien, sans avoir de travail, d'argent, ni rien d'autre. Mais j'étais heureux. Et là encore, je n'avais toujours pas intégré, après avoir passé 2 ans à errer ici ou là, je me suis dit qu'il me fallait trouver du travail quelque part. Je ne savais pas quoi faire. Je n'étais toujours pas au clair avec ce que je voulais faire de ma vie. J'ai même postulé une fois pour un emploi dans une banque. J'ai présenté ma candidature pour un poste universitaire parce que j'avais besoin de gagner ma vie. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait un professeur plein de sagesse, l'une des personnes qui me faisait passer l'entretien d'embauche pour le poste universitaire. Il me posait des questions et je parlais spontanément. Et le vieux professeur avait dû remarquer quelque chose parce qu'à la fin de l'entretien, il m'a demandé « Et qu'est-ce que vous voulez vraiment faire ?» Et ce fut pour moi une révélation. L'univers me disait quelque chose à travers lui. Ensuite, les gens se sont mis à me poser des questions de temps en temps et à me parler de leurs problèmes, et je me suis mis à dire des choses. Et peu à peu, et même là, je n'ai pas compris que c'était ce que j'étais censé faire. Il s'est passé encore un peu de temps jusqu'à ce que je réalise finalement « Ah, je suis supposé faire ce que je suis déjà en train de faire maintenant. » Oui, oui. Bien, ce n'est pas exactement ce que tu dis, mais dans une interprétation quotidienne, il s'agit de faire ce que le cœur aime, faire ce qui vient naturellement d'une certaine manière. Quand j'ai commencé à enseigner au début, je pense que j'en parle un peu dans Les femmes, la nourriture et Dieu, je pensais en fait retourner dans une école de médecine, non pas retourner, mais j'étais diplômé. Mais je n'avais pas envie d'obtenir un autre diplôme, je ne savais pas quoi faire. Et j'ai pensé, ok, j'ai besoin d'être médecin. Et je détestais la chimie et la physique, je n'y comprenais rien du tout. Mais je continuais de penser qu'il me fallait être médecin. Et je prenais de plus en plus de poids, c'est avant l'ouverture que j'ai eue. Et quand j'ai vraiment lâché prise, finalement, et que j'ai eu cette ouverture, j'ai compris qu'il y avait une autre façon de faire avec la nourriture. J'ai pensé, j'ai envie d'en parler aux gens. Je n'avais pas de travail, je n'avais pas d'argent. J'étais babysitter au sous-sol chez des amis, m'occupant de leurs enfants de 2 ans, et j'avais toujours beaucoup d'embonpoint. Je pesais environ 30 kilos de plus que mon poids actuel. Mais je savais toujours que j'allais trouver quelque chose ou que quelque chose me trouverait. Et j'avais envie d'informer les gens. J'ai donc décidé de publier une annonce. Groupe de soutien pour les mangeurs compulsifs. Tout le monde est admis pour $1 la soirée. Et beaucoup de gens voulaient venir et mes amis m'ont dit que je pouvais utiliser leur maison pour les recevoir. Et j'ai décidé de m'arranger en ayant une permanente parce que je disais que ma chevelure était la seule chose qui soit légère me concernant. Et j'ai donc décidé de l'avoir très très bouclée et c'est C'était l'une de ces permanentes cheveux secs qui m'avaient obligé à dormir toute la nuit avec des bigoudis. Le lendemain, qui était le jour du soir où allait se réunir le premier groupe, quand je suis allé me faire enlever les rouleaux, il y avait un grand panneau sur la porte du salon de beauté qui disait « J'ai dû me faire opérer d'urgence, n'enlevez pas vos bigoudis jusqu'à demain ». Donc, il m'a fallu démarrer mon tout premier groupe, beaucoup plus grosse que je ne le suis maintenant, avec vraiment beaucoup d'embonpoint, portant une robe d'été en plein mois de décembre, parce que je n'avais rien qui m'allait, et j'avais donné rendez-vous aux gens en face du magasin de vin et spiritueux.